Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bienvenue dans Gymnastique sonore, un programme de l'association Bande Magnétique qui vise à développer les biceps auriculaires grâce à des exercices d'écoute hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on retrouve le collectif Alerte Météo Terre qui se place dans le fossé qui existe entre l'urgence de bousculer les choses et notre piètre connaissance de la nature. Les solutions à mettre en place pour la préserver sont de vagues projections. Sur les routes de la mer et sur terre, nous partons à la rencontre de diverses personnes confrontées au changement climatique. Aujourd'hui, on écoute le 5e épisode, Potager Terre Partagée, enregistré au Jardin Potager Collectif du Centre Social Robert Doisneau à Bretenoux dans le Lot en août 2023 avec Armel, Nico, Manu, Sylvie, Fatima, Élodie et Isabelle.
Alerte météo terre.
Alerte météo terre.
Bonjour, bonjour les hirondelles.
Alerte. Alerte météo.
Alerte.
Alerte météo terre.
Alerte.
Une émission qui se balade.
Alerte.
En mer et sur terre. Météo Terre.
Grande histoire et petite question.
Une émission en mer.
Alors, regardez quoi quand vous arrivez dans le jardin.
Ce qu'il y a à cueillir. Ce qu'il y a à maturité. Pour pas que ce soit perdu, après on le met dans le centre pour les usagers. C'est à disposition dans l'entrée. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des pêches. Il y a des gens qui ont déposé des pêches à cuire, tu sais. Je vais en prendre. En fait, ça fait boule de neige parce qu'on met nos légumes à nous. Et les gens, après, bah, par mimétisme, déposent des légumes à eux et des fruits à eux. Putain, c'est incroyable. Moi, les tomates cerises, je connaissais pas le. T'as vu comment ça, ce que ça peut donner? Tu savais, toi?
Et vous observez des changements le matin quand vous arrivez dans le jardin?
Bah moi je vois des fleurs qui n'étaient pas là. En fait il y a beaucoup de rosée en ce moment. Ce qui fait hier matin il y avait du brouillard chez moi vers 7h30, je sais pas chez toi. Et la rosée je pense que ça arrose. Et ça fait naître des fleurs. Hein. Là-bas, là, sur le pourtour de derrière le centre social, il y a des choses qui sont fleuries, ouais, qui n'étaient pas tout à l'heure. Enfin hier.
Ah oui, je me suis fait un nouveau bobo.
Oui, je vois ça.
Ouais. Alors, t'en refais pas à nouveau.
Ah, puis t'as laissé ta boule.
Ça y est, regarde.
Il a poussé complètement tordu.
Ouais. Mais les tomates, c'est magique.
On va aller voir alors.
Ça pousse bizarrement. Regarde, on en a qui sont ressorties toutes seules.
On ira voir.
Et elles sont presque plus robustes que celles qu'on met en plant.
Ah, déjà.
C'est souvent comme ça, puisque ce sont des graines de l'année dernière qui ont décidé de s'installer.
Là, il fait un vieil aller-retour.
Ouais, hein. Donc, on va lui remettre un autre tuteur.
Les bambous, c'est super bien.
C'est les tuteurs que vous avez mis au tout début,
oui,
en fait. Et
ouais,
là, ils sont beaucoup trop fins.
Mais on a réellement pensé que ces pieds-là, ils ne tiendraient pas parce qu'ils étaient tellement fragiles.
Ils sont arrivés tardivement aussi.
Et puis, c'est ça. Ouais. Tout est arrivé très tardivement, et surtout les tomates.
En fait, il faut qu'ils fabriquent les tuteurs. On en a. Mais il faut en plus fabriquer des tuteurs transversaux.
Là, il faut des volontaires, tu sais. Il faut mettre une annonce pour revenir arracher l'herbe. Et tout, tu vois plus les petits, les pois chiches.
C'est toujours les mêmes qui le font?
Ça dépend. Ça dépend. Le temps, comment on est organisé. Donc, comme je disais, il faut plus ramasser, il faut plus cueillir les haricots verts. Pour les laisser grossir, pour garder les graines pour l'année prochaine. Autant les verts que les jaunes. Ouais. Voilà. Et les aubergines, on pourra bientôt les ramasser. De même, et les tomates, pas encore. Si, il faut laisser pousser les aubergines, une ou deux pour garder les graines, les concombres également. Et voilà. C'est tout, pour le moment. Les tournesols fleuristes, ils sont jolis. C'est vrai. Beau. celui-là, je lui ai coupé la tête là-bas. C'est tout. Il va pleuvoir.
Les aubergines. Solanum melongena. Albergine, mélongène, plante à œufs, pour certaines variétés. Famille des solanacées, annuelle sous nos climats. Difficile de trouver plus magnifique fruit au jardin qu'une aubergine au pourpre profond, brillante comme un miroir, issue d'une fleur non moins extraordinaire. Dire que c'est sous l'agréable surnom de « pomme des fous » que l'aubergine, originaire d'Inde, commença sa carrière en France au XVe siècle. Sa trop grande proximité avec les solanacées toxiques indigènes d'Europe, voire tomates, valut à ce malheureux fruit composé à 90% d'eau, tout à fait innocent, hormis peut-être le fait d'être peu nutritif, un long opprobre. J'aime pas ce mot. Heureusement, il n'en est plus rien, et chacun se régale de ces fruits charnus, synonymes de chaleur, d'été et de douceur de vivre. Au jardin. Les aubergines, couramment cultivées dans les jardins, sont probablement les plantes les plus exigeantes en chaleur. Excepté dans le midi, il faut tenir compte de leur important besoin de chaleur et ne pas les planter au potager avant la mi-mai, quand la terre est réellement chaude et que tout risque de nuit en dessous de 10 degrés est écarté. L'aubergine est une culture exigeante. Hormis quelques rares années exceptionnelles, c'est une plante relativement peu prolifique sous nos climats. Les aubergines doivent être taillées. Au début de juillet, on coupe la tige principale au-dessus de la deuxième fleur. De cette coupe démarreront de nouvelles pousses, à leur tour taillées au-dessus de la deuxième fleur.
On va arroser, on prend de l'eau de la tige, récupérer de l'eau de tige. Voilà. Ça se vend bien. Bon, ça suffit.
Où t'as mis le riz, parce qu'en fait, il faut qu'on arrose beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le riz, ça demande beaucoup d'eau. Non?
Non, juste quand on rose, il monte, c'est tout.
Ah bon?
Parce que chez nous, il n'y a pas, il y a pas beaucoup d'eau. Non, on arrive.
D'accord. Ça, c'est de la cannelle, ça?
Oui.
Ça sent bon. Hein.
Tu goûtes?
Si, c'est bacon.
Il y a le goût sucré.
Tu manges la cannelle comme ça?
Oui. Des fois, je fais un jus avec le curcuma.
C'est sucré.
Oui.
C'est incroyable.
C'est pas la même de magasin.
Ouais, vrai. Épicé.
Il est beau ton curcuma.
Donc oui.
Ça, c'est naturel.
C'est naturel.
Oui.
C'est celui que tu as.
Et comment tu le cuisines,
ça,
Fatima?
Je râpe. Comme j'ai beaucoup,
oui.
Je fais sécher.
Oui.
Après, j'ai mixé. Je mélange mes ingrédients. Jamais achète les épices en magasin. D'accord. Je fais moi-même.
Moi qui ai des gros problèmes au RL, le curcuma, c'est un très bon aliment normalement.
Tu fais le thé, tu peux faire un jus, tu fais bouillir le riz avec, tu bois.
Ah bon?
Oui, oui.
Avec l'eau de riz?
Oui.
L'eau de cuisson du riz?
Oui.
Tu en mets dedans?
Oui.
Ça, je connais pas tout ça.
J'aime beaucoup de trucs pour guérir. J'ai fait le massage aussi, quelqu'un. Je masse tout.
Par exemple, si quelqu'un a mal au dos, tu arrives à lui soulager la...
Ouais. Parce que les gens, ils viennent à Brive. Ils me connaissent, ils viennent, je fais le massage. Ouais. Parce que partout, même pas, je mets avec l'huile, je mets dans ma peau et tout. Je mets dans mes cheveux et tout. Tout partout.
Tu mets comment sur la peau?
Sur la peau, je mélange avec l'huile. L'huile de coco, comme ça. Ouais. Ou le savon.
Tu mélanges, tu fais cuire ensemble ou
tu... Non, tu ne cuis pas. Tu mixes.
Avec de lait de coco que tu as
acheté? Lait de coco, oui. Je mélange avec le curcuma ou le carotte ou le patate. Le lait ou l'huile. Ouais. Tu mélanges, tu fais bon massage, tu vois. Ma peau, c'est comme ça.
Ah, mais t'as une vraie peau de bébé. Hein.
Tu vois là, je suis noire.
Après, on me vient tout noir.
Je suis noire ici. Je n'ai jamais mes produits dans mon visage. J'ai dit, je restais comme ça. Je fais naturel.
Et là, c'est quand les cacahuètes que tu vois qu'elles sont bientôt prêtes?
Ah, je sais pas.
C'est comme les je patates sais pas. Ou pas?
Oui, oui, c'est ça.
Parce que les patates, on les récolte quand les fleurs sont très fanées, voire le feuillage un peu fané.
Ouais, quand le feuillage commence comme ça, ouais, ça. Je pense, ça, je sais pas le mois, je sais pas. Ça, j'ai vu à ma grand-mère quand il ramasse le feuillage, il est comme ça.
Quand les feuilles sont un peu jaunes.
Ouais.
Et quand elles sont toutes petites, la fleur, c'est magnifique. Ça reste très près de la tige, mais en même temps, c'est comme un bec d'oiseau. Ouais, avec une toute petite tache noire. C'est bon ton truc, hein? C'est très sucré, ouais.
C'est bon pour la santé
aussi. Ouais, et on sent le goût, on sent la cannelle au retour. Celle-là, c'est celle que tu as achetée ou c'est celle que tu as semée, et ramassée et récoltée?
Non, la famille là-bas, ils m'ont envoyé parce que j'ai demandé. J'ai demandé, vous m'envoyez le riz. Après, ils m'ont envoyé. Je vais montrer vous, comme le cacahuète. Je dis, j'essaye. L'année dernière, et c'est bon.
J'aime bien ça.
C'est là que je plante encore.
Je sais que moi, ce qui me fascine le plus dans ce jardin, c'est qu'on a très peu acheté, en fait, de plants, si tu veux. Il y a eu des choses qui émanent du jardin de Manu. Mais il y a beaucoup de choses. Moi, je ne pensais pas qu'on allait pouvoir aboutir à ce type de jardin qui peut nous nourrir à partir de graines et de boutures, quoi. Un jour, dans le bout de Bretonou à vélo, il y a une dame qui m'avait repérée et qui me dit « Je vous ai déposé les plants de salade pour le jardin devant le centre. » Elle était en voiture. J'étais trop gentille, quoi. Ça m'a fait plaisir, quoi. Donc, c'est fabuleux. Enfin, moi, je ne pensais pas qu'avec si peu de moyens, on pouvait aboutir à ça. Tant au niveau des fleurs, des arbustes que des fruits et légumes.
C'est quoi? C'est des physalis. C'est ça les physalis. J'adore les physalis, c'est beau.
Le château rose.
C'est ce qu'on appelle, c'est des petites clochettes. Les Japonais, ils appellent ça.
Parce qu'elle est dans le.
Ça a une symbolique au Japon, la physalis, hyper importante.
Ça donne ça.
Puisqu'en fait, c'est aussi une. Ça fait office de lanterne, tu sais.
Ah oui.
Ouais.
Et ouais. Ouais.
Quand ça sèche, ça devient presque transparent. Il n'y a plus que les nervures, c'est magnifique.
C'est magnifique.
Ah ouais, c'est magnifique. J'adore les physalis.
Et là, c'est.
La coriandre.
La coriandre.
C'est la coriandre.
Il va falloir commencer à récolter les graines.
D'accord.
Le coquerel du Pérou, ou physalis, également appelé l'amour en cage. Voici une merveille de douceur sucrée, légèrement acidulée, délicatement dissimulée dans une ravissante enveloppe en forme de lampion. Originaire du Chili et du Pérou, Physalis peruniava a rapidement conquis la planète. Outre sa région d'origine, cette solanacée vigoureuse est maintenant largement cultivée en Europe, en Australie, en Israël. C'est une plante médicinale pour les Indiens de l'Altiplano, qui utilise ses feuilles comme antiseptique. Les fruits sont une importante source de vitamines A, B et C, et offrent un apport de carotène, de fer et de phosphore. Comme il ne se taille pas, il ne demande pas beaucoup d'autres soins, que quelques désherbages en début de culture, puis un bon paillage en été. Hormis les limaces et les escargots au stade de jeunes plants, ce sont des plantes solides, qui ne connaissent guère de maladies ou de ravageurs particuliers. On récolte les baies à maturité, quand elles atteignent la taille d'une cerise, prennent une teinte orangée et que le calice qui les entoure se dessèche. Bien mûres, elles peuvent se conserver 2 ou 3 mois, au chaud et au sec.
Là, il y a marqué cerfeuil. Mais...
Cerfeuil, il n'a pas pris.
Il n'a pas pris.
Non.
Ah oui, c'est ça, là.
Cette année, bizarrement, il y a des plantes qui n'ont pas pris. Les poivrons, sortent difficilement. Par contre, les piments ont tous avorté.
Il y en a même là, des physalis.
Et les calendulas, ce qu'on appelle les soucis des jardins, c'est pareil. Ils sortent en feuilles, mais ils ne fleurissent pas. Les seuls qui ont fleuri, ce sont ceux des montagnes, qui ne devraient pas être ici.
C'est quoi les petits ronds, là ?
Eh bien, en fait, ce sont les haricots mungos qui sont sortis avec un peu de retard.
Tu crois ça ?
Ah ouais, j'en suis certaine, c'est moi qui les ai semés.
Ah bon ?
Ah oui.
Ah, mais
tu sais,
oui,
je pensais
oui,
qu'ils n'étaient
oui,
pas sortis, qu'ils ne sortiraient pas et qu'ils avortaient.
Tibino.
Ouais, 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 si, en fait, Fatima m'en a parlé aussi.
Et le problème, c'est que j'ai demandé à Manu comment ça se présentait.
Ça, c'est bon aussi, non ?
On va voir.
Si, alors les haricots mongo, ça fait comme les haricots verts, mais c'est noir.
Ok. Donc ça veut dire qu'on a des haricots verts, des haricots jaunes, enfin des haricots beurre et des haricots mongo.
Ouais. Okay. Et puis dans les haricots verts, on a des haricots fins, des ultra fins, et j'ai mis des cocos là-dedans. Moi, je suis de ces gens qui sont une jardinière feignante. Je ne désherbe pas beaucoup. J'essaie de ramener beaucoup de paillage. Sauf que le paillage, c'est pareil, c'est un peu cher. Donc, on y va comme on peut. Là, j'ai paillé, mais l'air de rien, bah, j'ai paillé avec du gazon, avec mes chutes de débroussaillage. Ça continue de pousser quand même. Donc, il faut quand même toujours désherber. Et ça, ça prend énormément, énormément, énormément de temps. Sur un jardin perso, c'est pas gênant parce qu'à la limite, ça permet de rester en contact avec sa terre. Mais un jardin collectif comme ça, surtout quand on n'a pas que ça à faire, ça prend énormément de temps. Donc, en même temps, c'est intéressant. Hein, ça permet de réfléchir à toutes ces nouvelles solutions, cette manière de d'évoluer, quoi. Et les fraisiers, ben voilà. Le problème, je pense que dans une situation comme celle-ci, avec des enfants qui viennent en atelier, là, c'est pas pratique, en fait. C'est un manque de praticité. Ils peuvent pas aller cueillir les fraises puisqu'elles sont en bloc. Si on les met en long, ils pourront les cueillir. Là, on en perd plein, quoi. Les animaux sont contents, hein, pendant ce temps-là, c'est eux qui les mangent. Mais on en perd pas mal, quoi. Et c'est dommage parce qu'on en a énormément, énormément. Et celle-là, elle a été mangée par un frelon.
Comment tu sais que c'est un frelon ?
Parce qu'il tourne toujours, toute la journée, autour. Ouais.
Il mange les fraises, les grosses fraises comme ça. Et
les frelons adorent les fraises. Ah ouais, les grosses fraises comme ça. Tous les animaux, les oiseaux, beaucoup. Les oiseaux, on voit la différence. Parce que les oiseaux, la fraise est piquée. Et le frelon, la fraise, elle est mangée, elle est gratouillée.
Il a bien fini son
assiette.
Ouais,
ils mangent bien en ce moment. Ils sont contents. En même temps, c'est le but. Hein. Parce que plus on va mettre de légumes et de fruits et de fleurs, plus on va avoir d'insectes pollinisateurs. Mais s'il n'y a pas de pollinisateurs, il n'y a pas de chocolat. Hein. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y aura plus rien, quoi. Et puis il va falloir trouver du temps, on va commencer à transplanter les fraisiers. Et en fait, les fraises, au bout d'un moment, elles donnent des stolons. Et ça, on le replante, en principe. C'est ce qu'on replante au fin juillet. Mais les fraises, c'est hyper solide. Sécheresse, plantes, pluie, gel. Ça ne craint absolument rien, les fraisiers. C'est pour ça que je manque de délicatesse avec les fraisiers.
Le fraisier, de l'ancien monde et du nouveau monde. Ils sont fous ces Romains, et les Grecs ne valent pas mieux, car bien que connaissant la fraise, ils en étaient très peu friands et considéraient le fraisier davantage comme plante médicinale. Pourtant, il s'agissait du délicieux petit fraisier des bois dont nous sommes friands aujourd'hui. Mais reprenons l'histoire du fraisier à son début. Le fraisier des bois pousse spontanément dans les sous-bois en Europe, où il était cueilli depuis la préhistoire. C'est seulement à partir du XIVe siècle que débute sa culture. Au XVIe siècle, il va être surplanté par un autre fraisier spontané, fraisier au bois. Sa culture répandue en Allemagne et en Belgique gagnera la France sous deux de ses variétés, Capon Royal et Belle Bordelaise. Le Nouveau Monde nous donnera d'autres fraisiers, dont le fraisier framboise, le fraisier abricot, le fraisier ananas ou encore le fraisier de batte. Le fraisier doit une étape décisive de son histoire, un officier de marine au nom de prédestiné Amédée Fraisier ou Fraisier.
Dans la figure, la fraise.
Non.
Alors, cette fraise, elle est bonne ?
Elle est bonne.
Ce qui est bien, c'est qu'on est nombreux, qu'on fonctionne complètement différemment. Donc des fois, ça porte à engueulade, c'est rigolo. Surtout avec Manu. On se marre comme ça, parce que lui, il est très, très, très traditionnel dans son manière de jardiner. Et moi, je suis un peu bordel, en parlant poliment. J'aime bien les jardins fouillis, j'aime bien les jardins d'anglaise. Et...
C'est bien que vous confrontiez vos deux points de vue aussi.
Ouais, c'est cool, super intéressant.
Parce qu'il y a plein de façons de voir le jardin, surtout de nos jours, où on revient un peu au sauvage.
Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, surtout en plus, on n'a pas le choix, parce que la terre, on se rend bien compte, dès qu'il fait sombre. Non, c'est pas ça. Dès qu'il y a la sécheresse. Quelque part, on a de la chance. Nous, ici, on n'est pas trop concernés par la sécheresse. Mais tout de suite, la terre est sèche. Même si c'est une très bonne terre, il y a un moment, il va falloir l'amender quand même. Parce que il va lui manquer des protéines, tout simplement. Il va lui manquer de l'humus, par exemple. Donc, ce serait intéressant, avec le temps, de pouvoir partager nos expériences et notre manière de fonctionner. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à s'entendre. On s'engueule un peu, mais on s'entend. On arrive à faire en sorte que les choses évoluent bien, ensemble. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. Qu'on réfléchisse aussi peut-être à une manière d'installer un arrosage automatique. Sauf que ça coûte super cher. Puis c'est super compliqué à faire. L'air de rien, il y a énormément de boulot. Hein.
On croit que ça ne va pas pousser, on croit que c'est crevé. Enfin, moi, je découvre ça depuis que je suis arrivée, je ne suis pas là depuis longtemps. Hein. Avant, j'étais en ville. Et je vois même quatre petites graines de butternut comme ça dans le jardin. C'est arrivé comme ça. Et tu verrais le système de lianes, de choses, c'est hyper solide. Et puis, tu crois que ça ne va pas prendre, ça crée, ça revient. Enfin, la résilience de la nature, quoi. Et ça, je m'en aperçois. Elle nous survivra forcément, quoi. C'est fabuleux. Enfin, moi, je découvre ça. Hein. Je ne pensais pas qu'on ferait des choses comme ça, quoi. Des fois, tu dis, c'est mort, ça va pas lever, quoi. Ouais. Et puis, ça arrive, quoi. C'est fou.
Ça me fait penser que quand tu parlais de l'herbier avant la grainothèque, l'herbier, c'est vrai qu'il était magnifique et c'est fait avec des fleurs tout autour du centre, au bord de la route, des petites fleurs insignifiantes comme ça, que tu fais même pas attention. Et c'est des petites fleurs comme ça qu'on a ramassées et on en a fait un herbier juste magnifique. Donc, finalement...
Mais quand tu te balades, c'est ça. Connaissance, mais il faut voir le nombre, la variété de fleurs que tu as sur un bord de chemin, tout bête.
Et encore plus vers le terrier.
Mais tout ce qu'il y a, quoi. Mais moi, je ne connais pas, je connais pas le nombre.
On a mis en valeur toutes ces petites herbes comme ça.
Ouais. C'est chouette.
Ouais. Et tu vois, là, par exemple, l'hypomée, quand il pleut, elle se referme. Et en fait, elle fait. C'est comme si elle rentrait en elle-même et elle fait un ourlet qui est bleu, alors que la plante est mauve.
C'est quoi qui fait un ourlet bleu ?
Il y a juste un liseré bleu. L'hypomée. Quand il pleut, elle se referme totalement. Regarde, elle va se refermer comme ça. Et elle fait un tout petit liseré bleu.
À quelle heure ?
Eh bien, ça dépend du temps. Alors, des fois, le soir, elle va se refermer. Mais quand il pleut, ça va être à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, quoi. Enfin, du jour. Sinon, la nuit, on la voit des masses. On la voit pas des masses. Et regarde, ce bleu, c'est pareil.
Comment tu l'as vu, toi ?
Parce que la semaine dernière, parce qu'il y a longtemps que je mets des hypomées, j'adore les hypomées. Et la semaine dernière, il a beaucoup plu. Souviens-toi, vendredi. Et en fait, elle était toute refermée. Et quand elle est refermée, elle est beaucoup plus ouverte. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais tiens, regarde, on le voit à peu près là. Non, pas là. On va demander qu'il pleuve.
Je vois ce que tu veux dire.
Tu vois ce que je veux dire ?
C'est qu'elle va plus profond.
Ouais, c'est ça.
Elle fait un ourlet qui permet
c'est
de
ça.
Voir plus loin.
Ouais.
Là, tu as pris des feuilles de quoi ?
Ça, c'est une feuille d'encolie. J'adore les encolies. C'est une plante de printemps
et souvent qui reprend à l'automne. Une plante des bois, celle-ci c'est une encolie des bois que j'ai ramenée de Cajar. C'est pas du tout une botanique, c'est vraiment une naturelle. Elle est bleue. Au printemps, souvent les plantes, elles sortent, elles arrivent, les premières, elles sont mauves. Et c'est l'une des rares plantes bleues des printemps, qui sont très très prisées par les bourdons et les abeilles. Donc plus t'as d'encolis, plus t'as d'abeilles.
T'aimes bien la couleur ?
Ouais, puis j'aime cette couleur aussi. C'est un bleu, tu sais, un bleu... un bleu nuit. La nuit, juste avant que la nuit se lève, ou se couche, comme on dit. Se lève, puisque c'est le lendemain matin qu'elle se couche. Et je me suis rendu compte cette année qu'en fonction également de la terre, le bleu diffère. Et en fonction de l'âge de la plante, le bleu diffère. Elle peut passer du bleu cyanotype au bleu mauve et au bleu foncé, hyper foncé. Donc c'est super joli, quoi. Sur la même fleur, t'as plusieurs bleus. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est les dégradés. Les dégradés de couleurs, j'adore, sur les mêmes fleurs. Tu fais quoi, Manu? Tu fais quoi?
Non, je regardais la tête qu'il avait.
Alors du coup, la capucine, ça se mange quand, tu dis?
Tu la manges entière? Et ça se mange plutôt le... parce qu'en fait, c'est à l'intérieur, il y a la... Et une graine, c'est à l'intérieur de la graine qui a le goût poivré et épicé. C'est particulier, hein. Non, je voulais la mettre comme ça.
Ça, vous les avez plantées quand, les capucines?
Les capucines, on les a mises en godet d'abord. Quand? Pas avant les seins de glace. Les seins de glace, 11, 12, 13 mai. Et après... Et puis cette année, ça a été compliqué parce qu'en fait, on a eu un printemps très pluvieux ici. Donc on a dû ressemer plusieurs fois. Les capucines, c'est facile, celle-ci. Parce que les capucines naines sont plus faciles à sortir que les capucines grimpantes. Ah, ça c'est mon téléphone.
Tu la manges entière comme ça?
Ouais. C'est comme les fleurs de bourrache. Il y a des gens qui mangent les feuilles de bourrache. Mais les feuilles de bourrache, tu sais, c'est un peu poilu. Je regarde juste qui m'a appelé. Parce qu'on est mardi matin. Si c'est important, il me sera un message. Ah bah tiens,
la bourrache. Borago officinalis L. Buis, buglos, langue de bœuf, langue d'oie. Famille des boraginacées annuelles. Elle ne demande aucun soin particulier. Se plaît à peu près n'importe où. Se ressème d'une année sur l'autre et de plus est très mellifère. Ses fleurs sont d'une beauté remarquable et ses feuilles délicieuses font effectivement d'elle, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Bernard Bertrand, une étoile au jardin. Sa discrétion ne doit pas nous faire oublier sa présence séculaire dans les jardins. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité la consommaient déjà. Elle était alors cultivée pour ses vertus médicinales, alimentaires ou ornementales. Nombre de textes médiévaux y font allusion, jusqu'au comte de Saint-Paul qui arborait sur sa bannière une fleur de bourrache. Connaissait-il ou anticipait-il ce dicton populaire anglais? Un jardin sans bourrache est comme un cœur sans courage.
Alors, en fait, lune montante, c'est pas lune croissante, hein, lune montante dans le ciel. Ça permet... comment on va dire? Ça aide tout ce qui est... aérien. Donc ça veut dire que la graine, elle va partir plus vite. Lune descendante, en général, tout ce qu'on fait en lune descendante, c'est plus long à croître, mais par contre, ça a plus de force. C'est pareil pour les cheveux, c'est pareil pour les ongles, pour les poils. Moi, je m'épile en lune descendante. Comme ça, je m'épile pas souvent. Alors en même temps, ça dépend des végétaux. Et visiblement, le riz a besoin de la lune montante. Ça dépend des végétaux. On a vu que les radis préféraient la lune descendante. Donc en fait, tu observes au fur et à mesure de la vie, quoi. C'est assez magique, hein. Et puis ça dépend de l'endroit où on est aussi. Et de la saison.
Par contre, tout ce que tu... quand tu récoltes les médicinales, c'est mieux en lune montante. Parce qu'en fait, en lune montante, toute la sève est en haut du végétal. C'est-à-dire là, les graines, par exemple, quand elles vont être bien sèches, je me débrouillerai pour les récolter en lune montante. Parce que la sève est en haut. Et avant midi. Parce que la sève est tout en haut. Et donc, les graines, elles sont pleines de sève et elles auront un meilleur rendement. C'est comme les légumes, c'est comme les fruits, c'est comme les fleurs. Tu vois, toutes ces graines-là, on les récoltera quand la... Celles-là, on va pouvoir commencer à les récolter, parce que la lune, elle est ascendante, là.
C'est les graines de quoi, ça ?
C'est des graines de coriandre. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, comme les graines de fleurs, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, parce que tout de suite, ça fait fouillis, ça fait désordre, ça fait pas propre... Mais en même temps, s'il n'y a pas ce fouillis, il n'y a pas de la continuité de la vie, quoi. Tout simplement. S'il n'y a pas de graines, il n'y a pas de plantes. Comme dirait Polynice, pas d'abeilles, pas de chocolat, quoi.
Et du coup, là, les marrons, les graines marrons que tu montres, c'est celles qui seront pour manger ou
qui
pour
seront,
replanter
ouais, les deux. Pour faire les sauces, les sauces, les mets, les repas. La cuisine et pour ressemer. Parce qu'en fait, la graine, elle est à l'intérieur de ce que l'on consomme, souvent.
Não pode criar paz na terra, enjore pensar. Homem tá cheio de malvadeza, sem respeito à natureza, nem Deus valeu. Tanto inventa planeta, tanto coitado a maneta, sem ser jovem. Monopólio cambada, é distinto de nós vivemos. Cada hora uma notícia, cada minuto uma lícia. Desarmamento e conversa, ma banquete e vice-versa. E fartura não conta, e miséria não conta. Muita pior que jogo. Acabo mandando calavó, conta dizer verdade. Não te dá viver duas da ameaça, não flagelo pra contaça. Mundo podia ser outra coisa, vida podia ser outra coisa. Se nós todos podíamos juntar amor, podemos. A Bíblia pra falar na Apocalipse. 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 Paquetão, maldade.
Donc là, je vois ta sauge, par exemple. Et je sais pas, est-ce que tu peux dire, par exemple, c'est ta sauge, ça, celle qu'on voit, hein?
Ouais, ouais.
Celle dont tu parles. Et comment ça s'est passé, cette session, en fait, de photos Comment ça s'est passé, ce moment?
En fait, c'est parti d'une envie de continuer une série de photos au fil des saisons. J'avais initié un petit peu par hasard. Tout ça me vient souvent assez sans trop réfléchir. J'avais déjà fait quelques photos pendant la fin d'été. Et je me suis dit, on est dans l'automne qui commence, mais qui commence pas vraiment, dans cette saison étrange, cet été qui n'en finit plus. Et j'avais envie de faire une série, capturer un petit peu des instantanés, des petits morceaux un peu choisis, mais complètement aussi au hasard, quoi. En fait, j'avais pas vraiment de plan. Je sors avec mon appareil photo et je viens déambuler dans le jardin. Et puis j'étais je me suis arrêtée par ce que mon œil voyait en termes de lumière. Et puis j'aime bien le mélange aussi de gros plans, parce que pour le coup, pour la sauge, il y a vraiment sur les feuilles, il y a tellement de choses qui sont intéressantes à voir de très près et complètement différentes de la plante. J'ai fait plusieurs photos d'ailleurs. Il y avait la sauge en entier. Et puis après, de près, quoi. Enfin, c'était complètement différent, quoi. Et en fait, c'est aussi ça, au moment où je prends la photo, avant même de voir ce que ça a donné, ce que je vois dans le viseur, en fait, avec la lumière et c'est ça qui m'intéresse et qui me fait perdre complètement aussi la notion du temps. Enfin, il y a un truc magique aussi de waouh, quoi, de se dire, mais en fait, tout ça, c'était déjà là, mais c'est juste que finalement, l'appareil est un peu un prétexte et une bonne occasion de voir ce que je pourrais voir juste avec mes yeux. Mais voilà. Et puis forcément, l'appareil aussi apporte... Il y a une poésie qui se crée par l'image et qui parfois sublime un petit peu le réel. Il y a ça aussi qui, je pense, me plaît aussi. C'est que ça... Il y a la réalité et puis il y a aussi ce qui est possible de capter en photo avec la focale, avec les flous nets, enfin, ce que ça crée, quoi. Et voilà, dans cette photo, il y a... Enfin, quand je la regarde et au moment où je l'ai prise aussi, il y avait tous ces petits détails, quoi, de la feuille, quoi, de la feuille de sauge. Et quand je la vois, j'ai l'impression de revivre un peu le moment et puis de presque pouvoir la toucher, sentir un peu, on voit la texture de la feuille, enfin, il y a quelque chose qui replonge en fait dans ce moment-là. Et c'est... Ouais.
Vas-y, finis. Pardon.
En fait, quand je vois cette photo, il y a un mouvement, il y a plein de choses dans cette image que je n'avais pas forcément perçues tout de suite, parce que, enfin, il y a ce qu'on regarde, et puis après, il y a qui est furtif, parce qu'on ne reste pas non plus des heures devant une plante. Et après, l'image, par contre, elle fige quelque chose à un moment donné. Et le fait de la re-regarder, on peut y revoir plein de choses qu'on n'avait peut-être pas forcément vues aussi sur le moment. Parce qu'il y a aussi l'attention dans la photo de se dire « Attends, j'ai... » Bon, on réfléchit forcément à des choses un peu techniques, entre guillemets. Mais, et du coup, c'est ça qui me plaît aussi dans la photo, c'est qu'il y a le moment aussi de traiter les images, où du coup, je me replonge, enfin, je les vois à l'écran. Il y a la sélection, il y a un petit peu de... Ça fait revivre aussi ce moment-là, en fait, et ça l'immortalise. Et c'est ça que j'aime bien dans le fait de les capturer, pour moi déjà, et puis après de partager ça, quoi, parce que finalement, c'est trop beau pour ne pas être partagé, ce qu'on a tous sous les yeux, hein, parce que c'est rien d'exceptionnel, c'est mon jardin, c'est de la sauge en soi, voilà. Il y en a partout, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose de rare ou de... Je sais pas trop quoi.
Là, quand t'as pris cette photo, t'as focalisé sur quoi?
C'était la feuille. Je voulais avoir vraiment la texture, la matière d'une en particulier, de petits détails. Et à la fois, il y avait la lumière derrière sur les autres feuilles. En fait, j'aimais bien l'idée qu'on voit sans vraiment... boire en entier, qu'il y a un petit peu de... il y a du flou aussi, on ne sait pas exactement. Tout n'est pas dévoilé dans l'image, quoi. Mais voilà, il y a un focus qui est fait justement sur la feuille. Et c'était vraiment le grain de la feuille, quoi, la matière aussi qui m'intéressait, quoi, de mettre l'attention là-dessus, ouais. Et la focale, du coup. Enfin, la mise au point là-dessus, quoi. Oui, ça fige quelque part un moment qu'on peut garder, qu'on peut contempler très longtemps, quoi. En fait, j'aime bien le fait de pouvoir faire des assemblages d'images entre elles, et de matières, de gros plans, etc. J'avais commencé cette série où, là, j'ai pas continué, mais la première photo, c'était une photo de moi contre un arbre. C'était un petit peu pour figer un moment voilà, particulier d'un temps que je m'étais donné dans la forêt, pour vraiment poser le dos contre cet arbre et d'observer sans téléphone, sans appareil photo. Et je l'ai fait vraiment pour de vrai, sans. Et puis après, j'ai refait avec l'appareil photo, où j'ai remis en scène, entre guillemets, ce moment. Raconter ce que j'avais vécu sans appareil photo et qui était une expérience chouette que je fais pas assez souvent, mais qui m'avait été suggérée aussi de vraiment un moment dans la nature qui, à la base, je crois que c'était 2 heures, enfin, j'ai pas fait 2 heures, mais de vraiment se poser et ne rien faire d'autre que d'observer avec les yeux ouverts. Donc voilà, pas de méditation, rien, c'est juste d'observer, d'être là. Et voilà, et la série avait commencé avec cette photo. Et puis la saison d'après, je m'étais dit, ah, ça peut être chouette de refaire aussi une photo de moi contre un arbre, mais avec une végétation qui est complètement différente. Et du coup, j'étais retournée dans cette forêt, il y avait un coin où il y avait plein de fleurs, et du coup, et voilà, ça avait fait un petit peu le même cadrage, la même position. Et je trouvais intéressant aussi de voir l'évolution au fil des saisons. Puis ben, moi, au milieu de ça, ces photos, ça parle aussi beaucoup du rapport que j'entretiens et du lien que j'ai commencé à créer depuis que voilà, j'habite à la campagne et depuis que je prends le temps aussi d'observer plus et de créer un lien. Je le vois vraiment comme un lien, en fait, et un apprentissage, parce que malheureusement, c'est plus inné que d'être en lien avec ce qui nous entoure, quoi. Donc c'est un peu comme une rencontre. Quelque part, c'était un peu parti de là, cette idée de mettre au milieu de cette nature. Et il y a une autre photo un peu plus loin, tu vois, où on voit les mains de Thibaut qui est en train de préparer aussi une compote. Et là, on ne voit pas trop sur la photo, mais il est en train d'écraser quelques raisins qui nous restaient dans le jardin pour en mettre un petit peu avec. Voilà. Voilà, il y avait plein de choses qui était chouette dans ce moment, quoi. Enfin, je trouve que la casserole, enfin, la grande... Oh, je sais pas le mot.
Le truc en cuivre, là.
La marmite, ouais, en cuivre, déjà, c'est super beau. Et puis, à ce moment-là, il y a une lumière. Enfin, j'ai vu les mains qui travaillaient la matière. Enfin, Et à la fois, je me suis dit, c'est ça aussi l'automne, quoi. La fin de l'été, c'est comment on transforme aussi les fruits... les fruits, dans le sens, les fruits de tout ce que nous a offert le jardin, et puis comment on transforme pour pas gâcher non plus. Enfin, il y a aussi plein de choses, enfin voilà, que je trouve intéressantes là-dedans, dans le fait de transformer. Et pour le coup, là, c'était pas moi, mais l'année d'avant, j'avais fait l'expérience de mes premières confitures, et il y avait un truc super fort aussi dans le fait de transformer des choses qui viennent de notre jardin, qu'on a fait pousser. Et ce rapport à la matière aussi. Puis là, ce que je trouvais intéressant, c'est l'écrase avec les doigts. Enfin, il y a tout ce truc de sentir aussi la matière autrement, en la cuisinant, en la préparant. C'est dans cette saison où on va pouvoir figer, enfin, quelque part, le fait de transformer. Après, on garde pour tout l'hiver ou pour même après, quoi. C'est aussi rentrer dans une saison un peu différente où c'est un petit peu le goût de... aussi le goût de l'été qui perdure au fil des mois et que voilà.
Et là...
c'était ça aussi de mettre de l'humain au milieu de ça.
Oui.
Elle a super bien poussé celle-là. Celle-ci, c'est une graine qui est tombée par hasard. Et souvent, les graines qui tombent par hasard, elles prennent davantage, elles prennent mieux que les graines que l'on met... Parce qu'une plante, elle est comme un individu. elle a besoin de se sentir chez elle pour pouvoir bien grandir et bien évoluer. Il arrive dans les jardins que l'on soit obligé de transplanter une plante pour qu'elle se sente mieux et que l'année prochaine, tu vois, par exemple, je vais enlever les... Putain, je trouve jamais ce nom-là. J'adore ces fleurs. Celles-ci. Parce qu'elles ont... Et encore, là, je dis ça, mais en fait, non, elles sont en train de s'installer. Tu le vois quand une plante s'installe. Tu touches ses tiges. Et quand tu sens qu'elles sont bien, bien installées, c'est qu'elles sont bien raides, bien dures.
Elle s'appelle comment, cette plante-là?
C'est une...
C'est pas ça?
Ben si, c'est ça, c'est une coque lourde. C'est une plante qui est très, 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 très ancienne, qui a toujours plus ou moins existé. Parce que les plantes évoluent au fur et à mesure de... en même temps que le monde. Et celle-là, elle est restée. Et tu sais, c'est la plante qui fait des petites, toutes petites fleurs simples, pourpres, mais d'un pourpre très profond. Je passe des heures à regarder les bourdons qui viennent visiter les fleurs. J'adore regarder la lourdeur du bourdon se poser sur la légèreté d'une fleur, sans la déranger. Et les bourdons adorent les balsamines. C'est ça, la balsamine. Tu sais, la fleur, quand on était petit, on faisait clac. Et la graine, elle sort de partout.
C'est vrai que ces fleurs, elles sont super belles et particulièrement, on dirait qu'elles sont accrochées, suspendues.
T'as vu, hein ? Sur rien, sur un fil.
On dirait que le bourdon, la bois, ouais, voit, hein, les fleurs par derrière comme une trompette un peu. Ouais. C'est ça ?
Ouais, c'est cool. Bon, c'est un peu le désordre, hein. C'est pour ça que je voulais passer la débrouille, mais en même temps, ils annoncent un réchauffement. Et si on taille trop près, on va tout faire cramer. C'est ce que je me disais ce matin. En même temps, comme personne ici... Enfin, ça dérange pas grand monde du centre, le désordre, dans le jardin. Donc, dans une semaine, peut-être que ce sera pas gênant d'attendre une semaine.
Quand tu as quelque chose à savoir vis-à-vis de tes plantes, tu demandes à Armelle des conseils?
Oui. Oui, moi je lui demande, elle m'a donné plein de choses pour chez moi que je ramène. Voilà, un rosier. Donc oui.
Donc on découvre tout ça, je pense, Armelle. Enfin, c'est toi qui as le plus de connaissances.
Mm-hmm. Pas plus, non.
Si, c'est toi qui as la connaissance, parce que l'étiquetage, on l'a fait en fonction de toi. Si jamais on savait qu'il fallait qu'on étiquette. Ouais, c'est toi qui as la connaissance.
Je suis peut-être un petit peu... Comment on dit ? Je pinaille un peu sur, justement, l'appellation des plantes. Mais j'ai pas le sentiment d'en connaître davantage que vous. Simplement parce que peut-être j'ai appris à l'école, j'ai fait une formation avec le jardin espace vert, mais aussi parce que je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'y connais peut-être un peu plus dans les plantes arbustes. Ouais. Par contre, Manu m'apprend énormément de
choses.
Ce qui est riche, c'est qu'on s'apprend et on continue à apprendre chacun, mais surtout on se découvre. Et au même titre que tout à l'heure, tu as employé le mot « ça nous enrichit ». Ça nous enrichit, ouais, ça nous enrichit là. Parce que ça enrichit le sol, mais ça enrichit aussi l'intérieur de nous-mêmes. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir que de cet enrichissement, on va pouvoir l'offrir à tous ceux qui sont autour de nous pour que justement on reprenne conscience qu'une plante et une graine, c'est ce qu'on disait hier avec Nico, c'est magique de réaliser qu'une graine, c'est minuscule. Un arbre vient d'une graine. C'est une vie.
C'est ça qui est intéressant, c'est de s'enrichir les uns les autres. Enfin, moi, je trouve.
Et pour terminer, moi, je dirais que c'est une vraie thérapie. Parce que quand je vais pas bien, il m'est arrivé ici de venir travailler seul. On l'a tous fait, on le fait tous. Hein. Mmh. Armelle le fait, Manu le fait. Sous le cagnard, sous la pluie, je dis rien à personne. Mon vélo, il est là, je le planque. Et faut me foutre la paix, quoi. Enfin, voilà. Et des fois, je rentre, je suis trempée, j'ai chaud, mais ça m'a fait un bien fou, quoi. Donc, il y a un espèce... Mais tous les gens vous le diront, ça. Enfin, tous mes voisins, moi, qui ont des jardins, vous le disent, quoi. Travailler la terre, c'est une thérapie. Mais ça, c'est égoïste. Je le fais pour moi.
Non, c'est pas égoïste. C'est se reconnecter à la terre pour pouvoir se reconnecter à soi. Et c'est ce que tu me disais hier. Retourne dans la terre pour pouvoir aller mieux. Et si tu vas bien, ben, forcément, on va faire que du bien autour de soi. Donc, sincèrement, merci. Merci d'avoir permis qu'on puisse faire cette expérience. Merci, Céline, de nous avoir fait confiance en plus. Sincèrement.
Non, c'est vraiment sympa. Hein. La thérapie ambiante.
Je pleure, mais oui, Sylvie, Manon, elle est au courant. Voilà, et...
Merci d'avoir permis qu'on existe.
Thank you.
Gymnastique sonore, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez entendu Potager Terre Partagée, proposé par le collectif Alerte Météo Terre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur canalb.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission riche en protéines. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.